Bleu, RCFM.
France Bleu.
Qui est là?
Help.
Help qui?
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCFM et dans votre émission Toc Toc. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Nous allons parler de littérature, de livres, de romans historiques, mais aussi d'un événement, l'histoire en mai, et ce, avec Michel Corotti. Bonsoir Michel, bonsoir.
Bonsoir Marie.
Comment allez-vous?
Impeccable.
Alors vous nous revenez après Petite Italie, les mauvais sujets, un petit écart avec l'école des cas désespérés, ce livre pour la jeunesse. Eh bien vous voilà avec Philippe Perretti de retour pour Entre chiens et loups aux éditions Alain Piazzolla. Alors pour se remémorer un peu les précédents ouvrages, on se souvient de Petite Italie qui se déroulait à Bastia, dans notre belle ville au début du XXe siècle, en 1935 me semble-t-il. Les mauvais sujets également à Bastia, mais alors là au XVIIIe siècle.
Oui.
Et puis là, entre chiens et loups, machine à remonter le temps, nous sommes pour le coup au Moyen-Âge. Cela se passe sur une année, au mois de mai, de mars, pardon, 1464, jusqu'à 1465, toujours au mois de mars. Est-ce que vous vous amusez toujours autant tous les deux?
Oui, bien sûr. Il n'y aurait pas de livre sans l'amusement, la curiosité, les échanges, les disputes préalables, avant de tenir le sujet, enfin, de penser que nous le tenons. Et après, ça donne lieu à une conversation ininterrompue.
Un roman historique qui se déroule au Moyen-Âge, en Corse, sur une histoire, sur une période de la Corse, et surtout l'histoire d'une famille, parce que ça vous aimez beaucoup, et d'une famille très compliquée, avec au centre de cette famille, Giudice, qui lui a un caractère de héros de roman, évidemment, sinon il ne serait pas là. Donc ce que vous aimez faire depuis le début de cette aventure romanesque, c'est trouver des personnages de romans, des marqueurs forts de romans comme vous les aimez. Vous nous amusez beaucoup avec votre écriture, je le dis à chaque fois, mais qui est délicieuse, qui est fleurie, et avec des mots qu'on ne comprend pas pour la plupart, donc on va chercher, on s'amuse avec vous. Et d'où vient ce plaisir des mots, voire cette obsession, tiens, des mots?
Alors peut-être de ma formation, hein, lettres classiques, on a le culte de l'étymologie, et puis du plaisir que j'ai eu à enseigner le latin, le grec et le français à des élèves pendant si longtemps, et parfois même ça me manque, je suis capable de saouler n'importe quel interlocuteur, voilà.
Donc la formation, l'enseignement, oui. Mais aujourd'hui encore, vous allez chercher un peu comme des petits trésors.
Ben oui, il y en a. La plupart me viennent spontanément, à vrai dire, et après je m'interroge pour savoir s'ils sont pertinents. Je ne voudrais pas que ça fasse barrage. C'est vraiment une question, voyez-vous, parce que un des auteurs que nous allons recevoir pour Histoire en mai, Camille de Perretti, qui vient de sortir un livre, Le sang des Mirabelles, elle a choisi, ça se passe au Moyen-Âge, je pense au XIIe siècle, pour l'avoir lu ailleurs, parce que le roman ne donne aucune date, aucun nom, mais par contre est truffé de termes rares et moyenâgeux qui coexistent avec des termes totalement contemporains, comme la résilience, ou vous voyez, les
donc
choses
là,
comme ça.
Là, c'est la vraie question.
Oui, comment écrit-on pour être à la fois crédible, ne pas désarçonner le lecteur, l'amuser, l'intriguer et l'amener avec soi? Donc là, moi, j'ai choisi de ne pas trop utiliser de termes trop compliqués.
Eh bien, dis donc.
Eh ben non, il me semble. Et puis, de ne pas mettre de notes de bas de page.
Oui.
Même chose pour ne pas accabler, pour qu'on se dise pas, oh là là, c'est savant, donc c'est pas lisible. Il me semble qu'on peut lire, même si de temps en temps, on ne comprend pas un mot.
Non, mais voilà. Bien sûr, on comprend le sens.
C'est la sonorité aussi.
Oui, c'est comme lorsque nous sommes enfants, vous savez, on ne comprend pas tous les mots, mais on comprend le sens.
Absolument.
Quand c'est bien écrit.
Voilà.
Alors voilà, c'est très rigolo parce qu'il y a un glossaire à la fin du livre. Moi, j'adore les glossaires. Sauf que là, il y a 4 mots.
Dans ce glossaire. C'était modeste.
Et là, on se dit, bon Dieu, s'il n'y a que quatre mots. Et tout le reste, dis donc, j'aurais dû les connaître, mais que se passe-t-il? Donc oui, non, vous avez été vraiment très modeste. En tout cas, c'est toujours un plaisir de découvrir vos romans, parce que, vous savez, c'est comme l'acteur qui s'amuse et qui est sincère sur scène, et bien évidemment, il embarque le public. Et ici, c'est la même situation. On sent que vous vous amusez. Alors, l'histoire est complexe. Cette histoire-là est très complexe même. Alors, heureusement, il y a un petit résumé à la fin du contexte.
Suis pas amusée tous les jours, Marie. Pour cette raison, pour être honnête. Parce que plongée dans les chroniques, plongée dans les thèses passionnantes, hein, mais pour moi qui ne suis pas historienne, Philippe me fournissant en abondance d'énormes volumes et des documents en vieux latin ou en italien qu'il colle sur mon bureau avec un bon sourire.
Les documents, ce sont souvent des thèses.
J'ai passé d'assez mauvais moments, dans la mesure où mon cerveau efface au fur et à mesure ce que je lis, et où je me retrouvais devant ce personnage en disant « mais j'avais cru tout comprendre, et finalement, je n'ai rien compris
».
Mais, bon, avec acharnement, j'ai saisi ce Giudicello, et à un moment donné, ça y est, j'y étais, j'avais à peu près délimité mon personnage, sur une année, comme vous l'avez dit, une année cruciale.
On ne sait pas ce que la Corse va devenir.
Je me suis vengée quand j'ai eu les personnages historiques authentiques, en inventant d'autres personnages plus proches de moi et chers à mon cœur, et en leur donnant des caractères relativement bien trempés. Et voilà, je voulais que ça soit à la fois comme un conte, parce que c'est un peu comme un conte, il y a quelque chose de la tragédie, mais tout en restant parfois bouffon, en particulier avec le personnage du valet, Gobetto.
Mais pourquoi avoir... Oui, on va en parler de Gobetto. Pourquoi avoir envie de continuer dans le roman historique si justement vous y remettez à plusieurs fois, parfois vous vous cassez un peu les dents sur certains points de cette histoire complexe?
Alors au départ, ça part, vous le savez, de ma très grande modestie, faut-il le dire. Je me suis dit, autant raconter quelque chose qui apprenne au lecteur quelques éléments intéressants.
Parce que mon écriture ne suffira pas.
Parce que si j'écris quelque chose de contemporain, mon Dieu, qu'ai-je à dire? Rien. Alors, il y avait ça au début. Alors, serais-je immodeste maintenant? Je n'en sais rien. Mais je veux dire, ça a compté. Et puis, le plaisir de travailler avec Philippe.
Le plaisir du partage,
plaisir du partage. Et puis après... On se dit qu'on arrive à se couler dans ces situations historiques et finalement à raconter un peu ce qu'on veut. Mmh. Et là, ce que je voulais raconter dans les rapports entre une mère et ses enfants, il me semble que ça passe bien et que même au contraire, cette époque un peu lointaine me donne tout loisir d'aller très loin quand même dans la noirceur.
Vous qui avez enseigné, pensez-vous que la contrainte... Et là, elle est grande, ici, dans votre livre Entre chien et loup, permet à l'imagination, à l'imaginaire, justement, de s'envoler. Est-ce que la contrainte devient une nourriture?
Oui, sans aucun doute. Un cadre, ça vous tient, ça vous comprime un peu, mais d'un autre côté, ça vous oblige à exprimer le maximum de choses, donc dans ce cadre-là. Donc, moi, finalement, je m'y suis pliée. Mais j'y trouve mon compte. Enfin, j'espère que le lecteur y trouve son compte. Il me semble que ce roman, très éloigné dans l'histoire, est quand même détroit, celui qui prend le plus ses aises, dans la mesure où l'aspect psychologique, le drame qui frôle la tragédie même, il me semble, est très prenant. Et j'ai voulu aussi ménager une sorte de suspense. Alors, je ne sais pas si j'y suis arrivée, mais j'avais un peu Hitchcock en tête sur la fin du roman, pour ne rien dévoiler. Je resterai obscure.
Quand vous dites, j'ai l'impression que des trois romans, c'est celui qui prend le plus ses aises. Cela signifie, j'ai l'impression que je suis de plus en plus libre dans mon écriture, que vous assumez de plus en plus le fait d'écrire?
Oui, très certainement. Très certainement, ce n'est pas une mince affaire. La première fois, je ne sais pas, j'aurais bien gardé la tête sous les couvertures. Mais après, on s'habitue à tout. Et dès qu'on trouve un ou deux lecteurs, eh bien voilà, le petit écrivain novice s'épanouit. Et bon, c'est vrai que j'ai des retours qui me font tellement plaisir. Et que je pense travailler en tout cas mon texte de façon à ce que ça soit lisible. C'est vraiment mon but, lisible par tout le monde, que l'intrigue soit là, que les personnages soient aussi assez intéressants, creusés, fouillés. Bon, en tout cas, c'est dans cette voie que je travaille.
Sophonisba, on en parle dans un instant. Dame Sophonisba, qui est la mère terrible, qui est au centre, oui, également de cette histoire, qui est pas gentille.
Pas vraiment.
On va dans un instant joindre Philippe Perretti, qui nous explique ce contexte historique dans lequel se déroule votre histoire entre chien et loup.
Non male medicina, non Dio vorrà chi.
c'est Michel Corotti jusqu'à 18h dans Toc Toc pour nous parler de ce livre Entre chien et loup, Miguel Cesari, que nous venons d'entendre sur RCFM. Et nous rejoignons Philippe Peretti. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Marie.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors,
c'est un plaisir.
Je disais que vous vous amusez beaucoup tous les deux depuis Petite Italie en passant par les mauvais sujets et aujourd'hui Entre chien et loup. Sauf que, évidemment, à l'instant, Michel Corotti nous disait « Je ne m'amuse pas toujours sur certains faits historiques que j'ai du mal à comprendre, qu'il faut que je relise, qu'il faut que je demande à Philippe. » C'est toujours compliqué. Alors on s'est dit « Tiens, si on l'appelait pour qu'il nous resitue le contexte historique de cet ouvrage Entre chien et loup. »
Alors, ça se situe, hein, l'ouvrage se situe pendant la période milanaise de l'histoire de la Corse. Une période en effet un peu confuse, hein, qui est pourtant racontée par les chroniqueurs et en particulier par Giovanni della Grossa. 14 ans de l'histoire de l'île, en gros d'avril 1464 à juillet 1478. Gênes dans cette seconde moitié du Quattrocento, le 15e siècle pour les Français, eh bien Gênes se porte mal. Et souvent, Gênes est obligé d'accepter un protectorat. Gênes a accepté le protectorat de la France. Il y a eu un gouverneur, Jean d'Anjou. Et puis, Gênes cède après des guerres civiles qui opposent en particulier deux importantes familles, les Adorni et les Frégoses, qu'on appelle aussi Campo Frégoses. Eh bien, Gênes va accepter le protectorat du duc de Milan, Francesco Sforza. Et notre Judy Jale, dont on parle dans le roman, qui est le personnage principal, le puissant seigneur Cortini, qui va être obligé de se rendre à Milan pour prêter allégeance au duc Francesco Sforza. Voilà le contexte historique de ce roman.
Donc de génoise, on se demande si elle va peut-être devenir milanaise, cette Corse ?
Elle aurait pu devenir milanaise, hein, après tout, pourquoi pas, hein, il y aurait eu des destins plus funestes, hein, quand on voit aujourd'hui ce qu'est devenu Milano. Hein. Mais en fait, ça se situe en fait dans le rapport avec Gênes, hein, parce que Gênes tient à la Corse. Hein, d'ailleurs, les Campo Frégosi vont venir souvent combattre en Corse et imposer d'ailleurs leur gouvernorat dans la période suivante. Voilà, hein, nous sommes restés génois.
On comprend mieux avec Philippe tout d'un coup. Alors, ce Giudice Cortini, quel personnage l'a inspiré, quel seigneur a inspiré ce personnage ?
Alors le seigneur Giudice Cortini, qui descend de cette puissante famille installée en Corse depuis le XIIIe siècle, qui prétend être originaire de Cortona. Giovanni della Grossa raconte l'histoire de la famille.
Donc leur il a château... existé lui.
Oui, absolument.
Ah oui, il a existé bien sûr. Hein, son château se trouve à Pietralerate, entre Zuani et Pidigorti di Gage aujourd'hui. Et c'est ce Giudice qui m'a particulièrement intéressé parce qu'il est à l'origine de la construction de la tour de mon village, Tox, la tour des Cortinchi. Et cette tour date justement de 1464, l'année dont nous parlons dans le roman.
D'accord, et cette tour existe encore, Philippe?
Ah, elle existe. Hein. Ah, disons qu'elle n'a pas fière allure, hein. Il lui manque ses créneaux. Hein. Mais enfin, elle est là, à l'entrée du village. Elle domine la vallée de la Bravone.
Et oui, Michel a beaucoup voulu parler de Bastia pendant longtemps. Il fallait quand même rétablir
le retour de Tox.
Absolument, il fallait parler
le retour de Tox.
De cet important village de la vallée de la Bravone.
Mais à quand Sartène ? On se le donne
la prochaine fois.
Ah, peut-être le prochain. Philippe... Je m'appelle Peretti, hein, j'ai aussi quelques liens avec le Sartenais, la Roque et l'Altaro.
Et oui, merci beaucoup Philippe Peretti, merci d'avoir été avec
plaisir,
nous.
C'était un plaisir Marie, bonne soirée Marie.
Merci beaucoup, au revoir. Ah ben oui, mais il explique très bien.
Ben oui.
Ben oui, donc c'est beaucoup plus facile avec lui.
Merci, vous n'aviez pas compris avec...
Non, pas non, du non. tout, vous ne m'avez pas expliqué.
Je plaisante, je n'ai pas expliqué.
Non.
Oui, mais c'est un je professionnel de l'explication.
Non, je faisais référence et ne m'en voulez pas, si vous m'écoutez, à certains de mes professeurs d'histoire. Tout simplement.
Malicieuse Marie.
Voilà. Donc, on se régale aussi à retrouver cette Corse qui est coupée en deux, comme aujourd'hui d'ailleurs, elle est toujours coupée en deux. Hein.
C'est une façon ou d'une autre.
Ah oui, avec cette terre des seigneurs et cette terre qui est celle du Nord. Et donc, eux, ils sont situés en plein milieu. ces courtings. Et là, on apprend qu'il y a moult châteaux et tours qui, malheureusement, ont disparu peu à peu, ou alors se sont détériorés, ou ne sont plus que des ruines aujourd'hui.
Elles ont été détruites pour la plupart.
Pour la plupart détruites.
Volontairement.
Ouais. Et on se demande, mais comment est-ce possible qu'il y ait eu autant de tours et de châteaux sur un si petit territoire, quand même? Ça, c'est fascinant.
Petit territoire, mais convoité, hein. Petit territoire, mais montagneux, avec ses vallées, avec ses pics, et comme ça convenait bien de planter un château au sommet d'un pic inexpugnable. Donc, oui, un petit territoire, mais âprement convoité, tous ces seigneurs, enfin, c'est quand même un crève-cœur de voir qu'une partie de cette Corse moyenâgeuse, nous ne la retrouvons pas aujourd'hui quand nous nous promenons, hein, qu'elle s'est faite très discrète. Enfin, il reste des tours, il reste des forts, voilà, heureusement.
Pour nous rappeler que cette histoire a existé, bien sûr.
Pour nous rappeler.
Alors,
tout ça.
Vous avez eu envie de nous raconter une histoire avec une société matriarcale et cette femme, cette mère, qui est donc vraiment la chef de cette famille. Elle s'appelle Sophonisba. D'où vient ce prénom ?
Alors, c'est un prénom bien usité, hein, à l'époque, 15e, 16e, jusqu'au 17e siècle. Et c'est un prénom c'est une reine carthaginoise, à vrai dire.
Mais comme les forts et les tours, hein, qui a disparu.
Ça a aussi un peu disparu, à moins que nous n'éveillions comme ça des vocations, des désirs, et qu'il y ait des petites sophonismes dans le futur, j'en doute, mais enfin.
Pourquoi pas.
Et donc, cette reine carthaginoise a donné lieu à beaucoup de tragédies italiennes et françaises, dont une de Corneille. Je pense même avoir expliqué sophonisme à mes élèves une année où j'avais l'esprit inventif et aller chercher comme ça des textes peu connus. Et donc voilà, tragédie parce que, en effet, le personnage dans le roman est assez porteur de tragique. Voilà, j'ai trouvé
d'abord
que ça lui allait bien.
Le père a disparu, donc elle se retrouve à la tête de cette famille malgré elle. Il y a cette fille, Luigi, qui est alors vraiment ce personnage qui existait dans toutes les familles.
Oui,
j'ai l'impression.
C'est vrai, hein. Hein, absolument.
Qui est complètement dévouée.
On l'a connue.
On l'a
dévouée,
connue.
Touchante, endurante, aimant son frère, et puis souhaitant vaguement que les choses s'améliorent, que sa situation change. Pourquoi pas se marier un jour? Et oui, et c'est un des personnages les plus, oui, il me semble.
Très attachant.
Les plus attachants.
Et qu'on a tous connus dans nos familles.
Oui, oui, oui.
Alors elle ne l'aime pas, cette mère?
Non.
Elle ne l'aime pas, mais elle lui est dévouée. Elle est son esclave, sa chose.
Son souffre-douleur.
Mmh. Pourquoi elle reste dans cette situation, à votre avis?
Ben, une situation de soumission, hein. La mère est la maîtresse du domaine, hein.
Elle n'est pas un homme. Alors que la maîtresse du domaine est une femme. Mais comme elle n'est pas un homme, elle n'a pas voix au chapitre.
Voilà. Voilà, elle est aussi puinée, enfin c'est les nés qui commandent. Et puis elle ne s'est pas mariée. Bon, j'ai voulu faire une mère. Bon, ce n'est pas Médée, hein, mais c'est quand même une mère.
On y pense oui, beaucoup à Médée.
C'est quand même une mère dévoratrice.
Oui.
Et il me semble qu'avec justement le confort de cette distance dans le temps, je dépeins l'archétype de la marâtre, de la mauvaise mère, de la mère dévoratrice qui est en chacune de nous, j'allais dire, qui fait partie, hélas, de la condition de mère. Il y a toujours, bien sûr, à bas bruit et maîtrisé, mais la plupart du temps, mais il y a toujours cette envie de manger à nouveau ses enfants.
De dévorer ses enfants.
Voilà. Mmh. Et bon, là, j'ai donné libre cours pour créer ce personnage.
Pas au sens premier du terme, hein, évidemment, mais on le ressent bien. Et puis, dans certaines façons de vénérer ce fils.
Oui, Il y a aussi chez des femmes comme ça le choix du mal contre la fille. Donc sa fille, elle ne la trouve même pas vraiment jolie. Son fils seul a toutes les qualités.
Bien sûr.
Il est beau, il est courageux.
C'est une mère méditerranéenne.
Absolument, c'est une horreur.
C'est une horreur.
Il faut bien le dire.
Vraiment, il faut s'éloigner un maximum, même si en effet, nous gardons tout en nous ces gènes très très forts de cette mère méditerranéenne qui ne rêve que d'une chose, c'est dévorer ses enfants au sens littéral du terme. Dans un instant, nous allons continuer à parler de ce livre, Entre chien et loup, de ce roman, et nous allons parler de Gobette, qui est l'un des personnages absolument truculents. Parce qu'alors, ce Gobette, qui était un serviteur, en fait, il a de l'esprit.
Oui.
Et puis, il a
des lettres.
Il a des lettres. Mmh. Et puis, de plus en plus, il s'impose avec ses idées. Gobette aussi, ce prénom ? Ou ce nom ?
Ça, plus ce un surnom, voilà, ouais. Un sobriquet, parce que le pauvre est un petit peu bossu. Il est grand et il est un peu voûté, voilà, on va dire. Un peu là aussi, c'est le comte, hein, le bossu qui porte chance. Mmh. Et puis c'est une disgrâce physique qui est compensée par tellement de grâce morale.
On en parle dans un instant sur RCFM avec Michel Corot, qui est notre invité.
Und Wut in ihm und Küssen ihn, so will ich Mut und Wut.
Brigitte Rouet avec la voix génialissime de Barbara Hendrix, notre invitée.
Sublime.
Michel Corotti, pour nous parler d'Entre chiens et loups, que vous co-signez avec Philippe Perretti, qui s'occupe de la documentation de ce sujet historique. Puisque je le disais, nous sommes au Moyen-Âge, dans une Corse tourmentée, qui pendant 14 ans sera génoise, et qui à un moment donné, sur une année, de mars 1464 à mars 1465, eh bien, a failli peut-être devenir milanaise.
Elle l'est devenue, mais bien sûr, Francesco Sforza meurt l'année suivante, son fils... a un peu moins les épaules, on va dire. Et puis, Gênes, au bout d'une dizaine d'années, Gênes veut reprendre la main sur la Corse. Et
cette
voilà,
place
la Corse
stratégique
va redevenir chinoise.
Alors, Gobetto, ce personnage, donc on l'a dit, il est un peu voûté, il est grand, il a ce physique qui n'est pas vraiment gracieux, mais qui est compensé par une grande moralité, un esprit, mais aussi un cœur. C'est un garçon qui, au début, suit partout son maître. Il est toujours là.
Oui, je parle pour lui de dévouement canin, hein, puisque le héros est toujours aussi suivi de sa chienne, qui est un molosse, hein, un chien de guerre. Et Gobetto suit son maître et se rend indispensable petit à petit. Et ce qui est une relation très intéressante d'ailleurs, hein, de maître, pas à esclave, mais de maître à serviteur, on voit que ça s'est transformé et que cette relation évolue encore pendant le roman, voilà, jusqu'à devenir une relation d'amitié, il faut bien le dire.
Ou même une relation fraternelle.
Oui, plus que ça. Oui. Quand il endosse le manteau de Gobetto, oui.
Ça devient une relation intime.
Ils partagent la même peau.
Oui, entre ces deux personnages.
Que tout, au départ, bien sûr, sépare.
Qui ça pourrait être, ce Gobetto? Est-ce que c'est comme le je ne sais pas moi, c'est l'être moral de cette histoire, c'est...
Oui, alors c'est la voix du peuple
aussi.
Et d'un peuple que voilà que je voudrais quand même rendre présent.
C'est un peu comme que vous portez au nu quand même.
Oui,
puisque voilà.
C'est aussi le oui parce que eux qu'ont-ils à gagner? Peu de choses, la survie. C'est aussi un peu le cœur antique, puisque je parlais de tragédie.
J'allais vous dire, est-ce que c'est le cœur antique
qui décrypte les événements et qui les rend intelligibles. Il est plein de bon sens, voilà, c'est cette fonction-là aussi. L'éternelle relation du maître donc au serviteur, mais telle que on peut la retrouver dans Jacques le Fataliste et son maître, où le personnage intéressant, à l'évidence, c'est Jacques, et ce n'est pas le maître. Voilà. Donc, il y a un petit peu de ça. Gobetto, j'ai essayé de lui donner une véritable épaisseur.
Et ce personnage, donc, Giudice Lucortin, qui vous nous disiez qu'il avait bien existé, est-ce que vous vous êtes éloigné de ce que l'on sait de lui, ou est-ce que vous avez imaginé, justement, un personnage avec plusieurs strates, plusieurs couches, puisqu'il n'en restait pas grand-chose?
Alors, au départ, j'ai cherché, on n'en sait pas grand-chose, son père, finalement, est mort assez tard, donc Giudice a hérité du domaine tardivement. Et puis, moi, je voulais en faire je l'imaginais comme un jeune homme, hein, un genre un peu rocker. Sauf que il est pas tout jeune. Et
avec
là,
aura,
j'ai été obligée de faire machine arrière.
Une aura de
arrière.
Rockstar, hein, en plus.
Oui,
hein.
Ça, oui.
C'est ce que
je lui ai laissé. Mais ce n'est plus un jeune homme. Il n'a plus une vingtaine d'années. C'est un homme qui a 40 ans. Avec un petit fil de lassitude qu'on ne trouverait pas chez un jeune homme.
Avec une histoire personnelle.
Une histoire
lourde.
Personnelle plus lourde, avec des remords aussi qui peuvent l'attaquer plus durement, le mordre plus profondément. Donc, il est capable de retour sur lui-même, de jugement sur lui-même. C'est ce qui sauve le personnage, qui sinon serait un soudard.
Mais comment vous travaillez justement vos personnages? Est-ce que
Je les rêve.
Vous prenez des notes, vous les rêvez?
Je les rêve en grande partie. Je les fais circuler dans ma tête, j'y pense, en faisant autre chose, etc. Oui, je les
vous
rêve.
Vous les dessinez?
Et non.
Parce que vous êtes bonne dessinatrice.
Oui, mais ça, j'avoue que ça ne...
Nous avons pu le découvrir dans l'école des désespérés, votre livre jeunesse.
C'est très gentil. Mais non, je sais pas, je ne les dessine pas. Et par contre, j'étais fort contente qu'Edith Guidon invente cette belle couverture. Voilà, l'illustre. J'adore les livres illustrés. C'est dommage, mais ça n'existe plus. Ça doit coûter trop cher. Parce que sinon...
Oui, mais enfin, vous avez fait un livre jeunesse.
Regardez, illustré. Non, mais illustré pour les grands. Oui. Walter Scott,
bien sûr.
J'ai une très belle édition, tout illustré. J'ai tout Walter Scott, tous. Je sais pas, 30 volumes illustrés. C'est un vrai bonheur.
Mais alors, c'est vrai que c'est plus trop à la mode. Non. Il y a eu une époque où c'était très à la mode, même pour la poésie.
Moi, j'ai jusque dans les années 70-80, il y avait de belles éditions illustrées.
Et vous avez appel à de grands peintres.
Absolument.
Ouais, ouais. Et on peut relancer quelque chose.
Et c'est vraiment dommageable. Moi, je me souviens du Château d'Otrante, illustré par Dali.
Oui.
Ça ouvrait comme ça d'autres pistes. Voilà. C'est dommage. Relançons, Marie, à nous deux. Relançons la mode de l'illustration.
Est-ce que le public est le même depuis la petite Italie ? Vous retrouvez des fidèles ?
Ben, oui, ça, alors, ça me surprend toujours. Les quelques fois, je ne vais pas dire qu'ils sont si nombreux que ça, mais les quelques fois où quelqu'un me dit « Ah, je suis contente !» Il y a une dame qui est venue et qui me l'a dit pour la signature. « Ah, je suis contente que vous en ayez... » que vous en ayez écrit un troisième, j'ai adoré les deux premiers. Ah, j'ai pas osé l'embrasser, lui demander son nom, son adresse, son numéro de téléphone, voilà, pour lui envoyer des fleurs par exemple. Non, j'ai pas osé, mais je vous assure, ça fait drôlement plaisir. Oui, il y a un petit noyau de gens qui détestent pas façon de raconter les choses.
Est-ce que vous-même, vous êtes une lectrice de ce genre d'histoire ?
Oui. Oui, j'ai une amie qui m'a dit « Oh, Giudice, j'imagine bien l'avoir lu à 15 ans sous un châtaignier l'été, et voilà, et j'aurais été amoureuse de lui, comme on peut tomber amoureuse de Monsieur de Rochester dans Jane Eyre. » Ouais. Ah, j'ai dit « Mais ça m'irait totalement, parce que moi, c'est des romans dont je ne renie pas la lecture et le profond attachement que j'ai pour ce type de roman.
Ce type de roman, oui, on sent
moi,
bien.
Moi, j'aime le roman romanesque. Mmh.
Alors, le prochain projet, il germe déjà ? Vous avez quelques idées ?
Mais il avait déjà bien germé, et puis, je ne sais pas, ça
Patatras.
Va peut-être rester plante en pot,
ouais.
Parce que voilà que j'ai eu une nouvelle idée. C'est pour ça que ça m'a amusé que vous parliez de Sartène tout à l'heure. Parce qu'il se pourrait bien que j'abandonne Bastia et Tox pour Sartène, enfin. Peut-être qu'au fond, je n'ai fait que tourner autour de
Vous êtes née à Sartène, Michel ?
Alors non, c'est beaucoup plus beau que ça, oui. Sur mon papier d'identité, je suis née à Sartène, Marie. Mais en réalité, je suis née à Ajaccio.
D'accord.
Mais comme mon père voulait absolument que je naisse à Sartène, eh bien voilà le miracle de l'état civil en Corse. Dans ces années-là, je suis née à Sartène.
Oui,
j'adore ça.
Il connaissait
j'adore
quelqu'un.
Cette histoire.
Il connaissait
sûrement,
quelqu'un,
oui.
Sûrement. Et alors, Sartène, c'est le creuset de la famille Corot avant l'Italie.
Alors, ils sont venus d'Italie un été que je m'ennuyais énormément et je m'ennuyais beaucoup les étés dans mon enfance. Je suis allée à la mairie consulter, et j'ai cherché à faire un petit arbre généalogique. Parce que quand on a le malheur de s'appeler Corot, qui est quand même un nom à coucher dehors, et qui n'est pas très laudatif, hein, on se demande qui étaient ces gens corrompus ou érodés. Il y a un moment où on s'interroge. Alors, j'avais un oncle pince sans rire qui disait qu'on était des Corotis et des pirates grecs. Mais moi, je veux bien. Mais non, plus banalement, nous venons d'Italie et j'ai découvert, il y a peu grâce à Philippe, que nous venons de Pietrasanta, une petite cité idéale. Voilà.
Et le nom, l'origine, l'étymologie.
Je ne vois guère que cette affreuse étymologie.
Voilà, Philippe n'a rien trouvé d'autre.
Rien trouvé d'autre, hein. Non, parce que les Pietrasanta, c'est des Corotti avec deux R et deux T.
D'accord.
Et ils sont italianissimes, hein. Simplement, voilà. certains sont partis à la fin du XVIIIe siècle, sont passés par la Madeleine et sont arrivés à Sartène. Et c'était des maçons, des constructeurs. Ils ont construit des églises et le père de mon grand-père est mort en construisant le port de Propriano.
Sachant que les Corotti avec deux R et deux T, comme vous, de Pétrasante, peut-être travaillaient la pierre.
Je pense, oui.
Ah ouais,
je pense.
Ce serait tout à fait plausible.
Oui, d'ailleurs, je pense que tous les Corotti avec un R ou avec deux R, c'est la même famille.
C'est la même famille.
Après, on a orthographié d'une façon ou d'une autre.
Donc, ce serait peut-être le point de départ du prochain roman, tout ça.
Mais ça m'a bien intriguée. Et ça m'a bien fait rêver, oui.
Les invités d'Histoire en mai cette année ?
Alors, Histoire en mai cette année se concentre sur le Second Empire, avec Xavier Mauduit, flamboyant Second Empire. Il y aura la grande exposition cet été au musée sur le Second Empire.
En tant que donc, Corse, voilà. Vous avez le droit de dire Xavier, c'est autorisé.
Xavier, voilà. C'est fait, c'est dit. Et donc, cette édition s'appelle L'Empire contre-attaque, en toute simplicité. Voilà. Donc, ensuite, nous allons recevoir beaucoup d'invités, des invités corses et des continentaux, si j'ose dire, pour réfléchir sur le roman historique, puisque nous y revenons chaque année.
Bien sûr. Hein.
Voilà, alors il y aura deux rendez-vous de réflexion sur le roman historique à l'Albor et à la médiathèque Maremonti. Ensuite, il y aura...
C'est la médiathèque de Follet.
Oui, il y aura une promenade historique sur les pas de Salvatore Vial. Et ça, c'est une première qui sera déclinée les années suivantes avec colloques, etc. On y tient énormément. On veut faire revivre à Bastia Salvatore Vial.
D'accord,
donc,
formidable.
On va suivre son parcours. Il y aura de la musique, orgue, concerts, avec des partitions d'époque qui ont été offertes à Salvatore Vial. On va lire ses poèmes, on va lire des textes, on va s'habiller comme à l'époque, on va suivre un petit âne, on va manger des croquets aux amandes, ça va être absolument formidable. Et Linda Piazza, qui, comme tout le monde le sait, s'occupe brillamment de la bibliothèque patrimoniale, est derrière ce projet.
La venue de Bertrand Puart, alors on parlait de jeunesse, il y a ce travail qu'il a fait autour des grands auteurs.
Absolument.
Et notamment Zola.
Zola, Hugo, ouais. Dumas. Mm-hmm. Oui, alors il sera là, il va, comme nous le faisons chaque année, rencontrer des jeunes dans les écoles. C'est Françoise Ducré qui gère avec Michel Palot, Kim Arredo, André Agne, etc. Cet aspect-là, ça marche formidablement bien tous les ans.
Tout ça pour me faire parler à nouveau de Michel Palot. Je suis obligée de vous prononcer son nom.
Je suis désolée, Michel Palot, qui dès qu'il s'agit d'école, elle est
institutrice et directrice d'école. Ça a été la plus belle année de ma vie.
Et
c'était en troisième année de maternelle. Vous vous rendez compte comme le temps était long pour moi. Moi. À l'école après.
Oui, c'est le mauvais côté finalement, nous lui dirons. Après, elle gâche la scolarité des élèves.
Et oui, parce que la barre est trop haute.
Et oui, forcément. Comment faire ?
Les autres invités qui viendront.
Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter d'intelligent ?
Parce que vous n'avez pas donné les noms, vous me les avez donnés hors antenne.
Je vous les ai donnés, ouais. Je vous ai dit que nous attendions la réponse de Gérard de Cortance, que nous avons déjà reçue, et qui a écrit « Femme qui court », là c'est son dernier roman, et c'est un type assez formidable. Nous recevons en même temps, si vous voulez, les Corses qui ont écrit des romans historiques. Alors, la grande Marie Ferranti, et puis Marie-Paul Dolovici, Jacques Fousine, et puis nous-mêmes, nous allons nous recevoir, à vrai dire, avec aussi des historiens.
Les auteurs corses qui se sont intéressés à l'histoire.
Absolument, absolument. Et puis, je vous ai parlé de Xavier Mauduit, Xavier et Corinne Ergas.
Camille.
Et oui.
Vous nous avez parlé de Camille.
De Camille de Perret, qui avec son roman Le sang des Mirabelles.
Oui, c'est ça.
Alors ça, roman du Moyen-Âge, vraiment, c'est un roman qu'on dévore. On parlera de la maison des Vial, toujours en liaison, bien sûr, avec Salvatore Vial. Donc, c'est assez bien construit. J'ai oublié Sampiero Sanguinetti, Michel Casta, Raphaël Laloux, Alain Piazzolla, Jean-Guy Talamogne. qui va participer à la table ronde. Voilà, il me semble un joli programme bien centré autour de ce qui nous intéresse.
Si on désire avoir des infos, les lieux, les jours, les heures de rendez-vous, est-ce qu'il faut aller sur les réseaux sociaux par exemple, ou quelle est la marche
alors,
à suivre
d'ici...
Se rapprocher de la bibliothèque ou de la médiathèque?
Bien sûr, bibliothèque et médiathèque, Jocelyne Cast, qui va accueillir la table ronde... Bien entendu.
Donc peut-être
sur
que
les réseaux sociaux, sur notre site.
Voilà, je peux inviter les auditeurs à aller sur votre site d'Histoire en mai.
D'ici deux jours, tout y sera. Les horaires, les rendez-vous, le nom.
Et d'aller aussi, renseignez-vous auprès de la médiathèque Barberine d'Ouriagne, on parle de Jocelyne Cast.
Absolument.
Parce qu'ils renseignent très très fréquemment les réseaux sociaux et notamment leur Facebook.
Oui.
Et là, vous aurez toutes les infos.
Et la bibliothèque centrale est dans le coup également. Donc, voilà. Bibliothèque, médiathèque, médiathèque aussi de Bigoulia. Enfin, je veux dire, nous nous promenons aussi avec nos livres et nos écrivains.
Vous serez encore la présidente d'Artémar?
Encore cette année, sûr.
J'adore poser cette question.
C'est vrai, c'est terrible, hein, c'est terrible. Mais j'ai de bonnes pistes, hein. Et j'ai même plus que... Enfin, j'ai de bonnes pistes, et puis je suis bien entourée.
Pour passer le relais.
Pour passer le relais, par exemple, nous avons un tout nouveau vice-président.
D'accord.
Ça se dit comme ça.
Oui. Oui.
Laurent Simon-Paul, et d'autres vice-présidents tout à fait actifs, hein. Mais voilà, non, on pense, et d'ailleurs on recrute. Vous êtes jeune, vous êtes curieux, vous aimez le cinéma, la littérature aussi, venez chez nous. Vous serez bien accueillis. Bien accueillis, c'est vrai, c'est une association très très convivial.
Alors ça j'en suis sûre puisque vous accueillez le public d'une façon remarquable et je côtoie beaucoup de festivals. Et ce que j'aime bien aussi c'est l'idée d'accueillir des films et des premiers films en dehors parfois même de la programmation d'Artémar et parce que ça n'a pas pu se faire à ce moment-là où le film n'était pas sorti, eh bien vous organisez des projections sauvages avec Artémar et d'autres compagnonnages avec d'autres festivals.
Oui, l'âme, avec en, l'âme particulier,
en particulier.
Oui.
Et ça je trouve ça formidable parce que ça nous permet, nous spectateurs, d'avoir comme ça, des films qu'on n'aurait peut-être jamais vus.
Oui, et puis nous, ça nous maintient en forme, nous n'entrons
tout
plus
au long
en
de l'année.
Sommeil.
Ouais.
Voilà, en attendant le prochain festival, nous restons actifs, nous recevons des cinéastes, et du coup, ça déclenche d'autres rencontres possibles. Et puis un public que nous voyons plus souvent, c'est pareil, c'est plus d'échanges, c'est plus de convivialité. On est très content de cet Artémar complètement reboosté et aussi d'avoir réussi à amener à nous deux bonnes professionnelles,
Geneviève.
Et oui, Geneviève Ludovici, qui est une merveille, il faut bien le dire, et la très active Michèle Ville, qui se démène comme un beau diable pour ce festival. Donc c'est vrai que je me sens très épaulée. Il y a eu des années où nous étions beaucoup moins gâtés, on va dire.
Merci beaucoup Michèle Corotti d'avoir été.
C'est moi qui vous remercie, Marie.
Notre invité. Entre chien et loup, c'est le nouveau roman que vous co-signez avec Philippe Perrette. Il s'est publié aux éditions Alain Piazzolla. Et puis il y a également, pour celles et ceux qui ne vous ont jamais lu, Petite Italie, Les mauvais sujets, et pour la jeunesse, L'école des cas désespérés, où vous signez également les illustrations. Merci beaucoup d'avoir été
encore
avec nous.
Prend son bus, comme tous les matins, il croise cette même fille avec son doux parfum, qu'elle vienne lui parler. Il espère tous les jours ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais lui, il est timide et elle est si belle, il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue, et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit assez dommage. C'est dommage, c'est peut-être la dernière fois.
Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde